sans retard sur le programme, on va démarrer la première conférence et je vous laisse la parole.
Du coup, on va commencer ce cycle de conférences avec Jacques Dejean qui nous présentera son livre Nature et anarchie, où il brosse le rapport des différents théoriciens et mouvements anarchistes en présentant leur rapport à la nature et comment aussi actuellement. C'est une question d'actualité, la question de la nature et du rapport à la nature et comment il est encore vivant dans le mouvement anarchiste aujourd'hui.
Alors déjà, merci pour l'invitation. Alors c'est un bouquin, c'est plus une grosse brochure dans un premier temps, qui a été édité il y a quelques temps, c'est en 2019. Il va y avoir une réédition prochaine, revue augmentée, plus jolie, parce que là, c'est vrai que ça s'abîme dans le temps. Voilà. Mais en tout cas, c'est en auto-édition, c'est pour ça que c'était les premiers essais, que c'est une forme moins bonne. Alors, pour commencer, c'est un bouquin qui a été écrit sous un pseudo. Je ne m'appelle pas Jacques Dejean, moi c'est Julien. Pourquoi, en fait, avoir choisi un pseudonyme, c'est pas du tout pour éviter... un peu pour éviter de se faire repérer par les flics ou les fachos, etc. C'est toujours bien de se leur mettre des bâtons dans les roues, mais c'est surtout pour renouer avec cette vieille idée anarchiste que ce qui est important, c'est ce qui est dit et pas qui le dit, et que du coup, ça évite de personnaliser des idées, etc. Surtout que c'est un ouvrage où j'invente rien, parce que j'essaie juste de retisser les fils de certaines positions anarchistes, depuis Bakounine jusqu'à des mouvements plus actuels. Aussi bien chez des théoriciens, des grands noms comme Kropotkine, Reclus et tout ça, que chez des anonymes dans les mouvements antinucléaires et tout. Voilà. Du coup, ce livre-là, un peu pourquoi j'ai voulu l'écrire, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait à la fois un regain d'intérêt pour l'anarchisme, que je sentais autour de moi depuis quelques années, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est un peu l'époque qui veut ça, qui demande d'être radical. Et en même temps, une méconnaissance de l'anarchisme, en tout cas comme mouvement vivant, avec des allers-retours entre théorie et pratique, avec des contenus qui sont parfois divergents, même s'il y a une certaine cohérence. Donc voilà, il y a un peu une volonté de ma part de faire un peu d'idéologie, en quelque sorte. Voilà. Et en tout cas, d'essayer de contribuer à faire une petite histoire des propositions anarchistes et sur un sujet on ne peut plus d'actualité, qui est un peu voilà, les questions de rapport à la nature, questions d'environnement et tout ça. Et ça me paraissait d'autant plus important que ces propositions anarchistes, elles sont souvent un peu balayées comme ça dans les poubelles de l'histoire, considérées comme des reliques du passé souvent, parce qu'on les voit plus que par les prismes de quelques vieux théoriciens hein, et qui ont été depuis longtemps critiquer, corriger, etc. Par exemple, on a en tête la misogynie de Proudhon, qui était déjà critiquée par Déjacques au milieu du 19e siècle, à l'époque même de Proudhon. Et pour ce qui nous intéresse un peu plus, c'est voilà, certains penchants progressistes, voire industrialistes de certains anarchistes, comme Kropotkine, même s'il y a aussi une critique intéressante par le communisme anarchiste de l'industrialisme, mais ça n'empêche qu'il est pour les machines, qu'il vante même les engrais chimiques, etc. Mais c'était voilà, ces positions-là étaient déjà critiquées par exemple par les naturiens que j'évoquerai rapidement début XXe siècle, ou par d'autres anarchistes intransigeants comme Marcus Graham, qui s'appelait aussi Schmel Marcus, ou par des communalistes ruralistes. Tout ça dès le début du XXe siècle, donc très tôt, il y a déjà une critique de la société industrielle. Et du coup, en se replongeant dans l'histoire du mouvement et de ses propositions, moi, ce qui m'a marqué un peu, c'est le fait que l'anarchisme n'est pas du tout dépassé par les enjeux liés à la question de la nature ou par les enjeux environnementaux d'aujourd'hui, par les ravages industriels. Mais au contraire, ça permettait de s'outiller, de donner des armes pour faire face à ces enjeux de plus en plus... pressant. Et ce qui est, à mon avis, très intéressant de la part du mouvement anarchiste, c'est qu'il le fait toujours en partant de la question sociale, ou en tout cas en les reliant à la question sociale, c'est-à-dire avec des velléités d'entraide, d'auto-organisation, d'égalité, c'est-à-dire que la question de la nature, elle n'est pas séparée des mille manières dont les gens l'habitent, et l'anarchisme ne cherche pas à sauver la planète sans se soucier des oppressions diverses que peuvent subir les personnes. Et ça, par ailleurs, c'est à mon avis un point très très important. Il ne le fait surtout pas à travers le prétexte de l'urgence, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Alors certes, la situation est grave, hein, on l'a encore vu... On l'a encore vu cet été, avec, on parle de sécheresse et de pénurie, y compris dans les régions, tempérées, sécheresse et de pénurie d'eau dans des régions tempérées, de coupures d'électricité et de gaz. Hein, donc c'est-à-dire que le capitalisme aujourd'hui, il ne peut même plus nous promettre à courte échéance la garantie du confort de base. Enfin, un capitalisme de pénurie qui s'annonce. Donc voilà, donc il y a une situation qui va mal. Mais l'urgence, en même temps, c'est toujours le prétexte pour mettre de côté les questions les plus essentielles, pour accepter l'inacceptable, pour faire des compromis qui se transforment en compromissions. Et c'est en fait, voilà, c'est la vieille question des fins et des moyens qui est au cœur du mouvement anarchiste. Et voilà, bon, un petit exemple qui n'est pas lié au sujet du bouquin, mais voilà, que j'ai vu parce que j'ai traîné pas mal dans ces luttes-là, le phénomène de l'urgence et d'être toujours à cheval sur l'urgence, c'est par exemple sur les exilés, ça va se traduire par accepter de ne pas traduire les discussions et les débats pour accélérer la prise de décision et donc reproduire la séparation entre avec et sans papier, qui est pourtant une séparation qui existe, mais qu'il faudrait plutôt essayer de limiter. Et ça, bon, c'est un exemple qui est un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais c'est la même chose sur la question des ravages industriels, avec ce principe de l'urgence, quitte à mettre de côté l'analyse et l'action sur les causes, plutôt que sur les conséquences, et entretenir une certaine confusion. Alors évidemment, là-dessus, je vise un petit peu la collapsologie, même beaucoup, avec des mots d'ordre comme « nous avons besoin de tout le monde »,« nous sommes tous sur le même bateau ». La collapsologie, à mon avis, relève plutôt d'une entreprise de désarmement des luttes et des révoltes. Luttes et révoltes qui ont pourtant le mérite de désigner des structures et des défenseurs et défenseuses de l'ordre existant. Et c'est justement aussi de cibles dont nous avons besoin pour agir dessus. Et certainement pas de confusion un peu interclassiste, comme ça, où on aurait besoin de tout le monde est dans le même bateau, et où tout le monde devrait être logé à la même enseigne. Mais bon, c'est assez logique, puisque pour les collapsologues, le problème ne vient pas tant d'un système social et économique particulier que d'un défaut dans la psychologie humaine, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de naturalisation des ravages industriels au sein de ce courant-là. Donc voilà, donc il y a une critique de ce courant dans le bouquin, vous l'aurez compris. Donc moi, je suis d'accord sur le fait que le désastre est déjà là, qu'il va s'accentuer très vite, provoquer des bouleversements et des questions inédites. Mais l'urgence, en tout cas le discours de l'urgence, c'est à mon avis un piège, et ça emmène vers des solutions hâtives, souvent autoritaires, alors que les problèmes sont complexes. Un peu comme on dit... Prends ton temps, t'es pressé. À mon avis, c'est aussi cette leçon-là qu'apprenaient les mouvements anarchistes. C'est donc prendre au sérieux ces problèmes complexes et essayer de les défaire sans jamais mettre de côté les questions d'égalité, d'entraide, d'auto-organisation. Alors, outre ce piège de l'urgence, ce document mène aussi une critique qui me semble nécessaire à... Également, c'est une critique de l'écologie, aussi bien en tant que discipline scientifique ou de l'écologisme comme mouvement politique. Alors, je dis souvent de manière un peu provoque que je ne suis pas écolo. Alors, évidemment, si on réduit l'écologisme à une certaine sensibilité à la nature, alors là, oui, je suis écolo. Mais, à mon avis, l'écologie et l'écologisme, c'est autre chose. Et pour moi, il faut refaire la généalogie de l'écologie, aussi bien en tant que science que de l'écologisme en tant que mouvement. Pour ce qui est de la science écologique, très rapidement, hein, un petit rappel, elle a été initiée par Haeckel. Alors c'est qui ? C'est au XIXe siècle. Hein. C'est un savant allemand social-darwiniste qui faisait en gros une écologie des populations. Alors, bon, dans le détail, il proposait une classification des races humaines en les hiérarchisant dans un cadre évolutionniste. Donc, il y avait les Noirs et les Aborigènes, qui étaient censés être les plus proches des singes, et jusqu'aux Indo-Germains, qui étaient considérés comme les plus évolués. Alors, évidemment, le propos, ce n'est pas du tout de dire que l'écologie est forcément destinée à être réactionnaire et raciste, mais que dès le départ, elle a aussi des penchants vers ça, et c'est toujours bien d'en rappeler les origines. Ce qui est beaucoup plus intriguant dans la science écologique, c'est que dès le début du XXe siècle, c'est une discipline qui va être largement colonisée par les mathématiciens. Alors, il y a des chercheurs, par exemple, qui vont proposer l'équation de la compétition naturelle, par exemple, ou vont proposer l'équation de la prédation, etc. Et alors, ça peut sembler un peu farfelu, mais en fait, il y a une conception du monde, il y a un rapport au monde derrière qui s'inscrit dans cette discipline, avec cette colonisation par les mathématiciens, et une conception où le monde peut se réduire à des probabilités, des mesures quantitatives et très rapidement à du codage informatique. Puisque ces mathématiciens vont être suivis de très peu par les cybernéticiens. Et l'écologie comme science, elle est très largement influencée par la cybernétique. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la cybernétique. Un des grands pontes connus de ce courant-là, c'est Lovelock, qui a écrit le bouquin sur l'hypothèse Gaïa, voilà, qui est très connu pour son hypothèse. Et lui, il fait partie de ce courant-là, hein, de la cybernétique. En gros, la cybernétique, ça veut dire gouvernement de la machine, étymologiquement. Hein. Et en gros, la cybernétique considère que tout est équivalent à une machine, que la nature fonctionne comme une machine. Voilà, donc c'est ça la cybernétique. Alors par exemple, quelques exemples. Le soleil va être considéré comme un chauffage radiant non contrôlé. Ou encore, une citation hein, de Lovelock d'ailleurs. En définitive, je le cite, « En définitive, que nous considérions un simple four électrique, une chaîne de magasins de détail gérée par ordinateur, un chat endormi, un écosystème ou Gaïa elle-même, tant que nous nous intéressons à quelque chose qui est adaptatif, capable de récolter de l'information et d'emmagasiner expérience et savoir, son étude est une question de cybernétique et l'objet étudié peut être nommé un système. » Donc voilà, vous serez ravis de savoir qu'un four et un chat, c'est à peu près la même chose, c'est un système, et c'est un système, donc c'est équivalent à une machine. Donc voilà ce qui se passe avec la cybernétique, la nature, le vivant, le sensible, tout ça, ça n'existe plus. La nature, ce n'est plus un rapport charnel, un rapport sensible. Tout ça, c'est un peu le règne froid de la modélisation des systèmes, dont l'optimisation, évidemment, se trouve aujourd'hui dans les algorithmes informatiques. Et la cybernétique a vraiment influencé largement l'écologie comme science, et aussi indirectement, du coup, notre manière de concevoir le monde et nos milieux. Voilà, donc un petit détour, un peu. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'écologie et sur la cybernétique. Pour ce qui est de l'écologisme comme mouvement, ça va être un peu plus. Je vais faire ça de manière un peu plus brève. Bon, bah, lui aussi, il est traversé par des biais importants, hein, outre le fait qu'il a été influencé par l'écologie comme science. Mais de fait, l'écologie. L'écologisme comme mouvement politique, c'est finalement une proximité avec cette idée que l'écologie serait un mode de gestion des ressources. Voilà. Et c'est pour ça que le mouvement écolo a été si facilement intégrable, à mon avis, au capitalisme. Très rapidement, dès les années 80, hein, y a toute une critique de la bureaucratie au sein des mouvements écolos. Un certain nombre sont proches de socialisme ou barbarie, de ce genre de personnes-là. Et dès les années 80, ça n'existe plus, quoi. On passe de mandat impératif très rapidement à c'est pas grave, il y a des chefs comme dans tous les autres partis, comme dans tous les autres mouvements. Les écolos occupent des sièges du pouvoir, se plongent forcément dans les manigances politiciennes. Deux petits exemples, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est une ministre écolo vert, Dominique Voynet, qui signe des décrets d'application pour la mise en place du laboratoire de Bure, hein, par exemple. Et en 2009, un autre exemple comme ça, hein, des députés écolos vont s'abstenir sur une proposition pro-nucléaire au Parlement européen. Et toutes ces manigances politiciennes-là sont assez, sont à mon avis, pas du tout des erreurs de parcours. Ça vient de ce que c'est que l'écologisme à la base, c'est l'idée d'un mode de gestion des ressources. C'est pour ça d'ailleurs que les écolos parlent rarement d'un arbre quand ils en voient un, mais ils parlent d'un capteur de CO2. Voilà, il y a un rapport au monde qui est particulier à mon avis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écologie cherche surtout à poursuivre la même société capitaliste et industrielle par d'autres moyens. Hein. Mais c'est derrière, c'est à mon avis, c'est le même monde des écrans pleins, des boulots absurdes, en mettant un peu plus de renouvelables, par exemple. Hein. Ou en prenant le numérique à tout va. Alors, ça a été le cas notamment à Lille, hein, où les élus écolos ont été très actifs pour développer le tout numérique et les idées de smart cities. Or, on sait bien que c'est une aberration en termes aussi bien environnemental que social. Voilà. Alors, pour continuer un peu, je m'arrête aussi sur la notion de nature. C'est une notion qui est une abstraction, qui est polysémique, et qui est évidemment un peu compliquée à manier, qui est ambiguë. On s'en sert en général pour séparer l'artificiel du naturel, hein, sauf que dans la réalité, le naturel n'existe plus vraiment. Il y a au moins 300 000 ans de passage par l'Homo sapiens, donc qu'est-ce qui n'a pas été humanisé, on peut se le demander, pas grand-chose. Et de toute façon, notre regard sur le naturel se fait toujours par le prisme d'une certaine culture, c'est-à-dire par quelque chose qui définit en partie notre humanité. Donc quand j'utilise cette notion-là, finalement c'est un peu parce que j'ai rien trouvé de mieux. Tout le monde sait ce que ça veut dire nature, et en même temps, personne ne sait ce que précisément ça peut être. Voilà. Donc c'est un peu, vous me pardonnerez cette facilité, mais voilà. Je pense que j'ai pas trouvé d'autre solution que celle-là. Et surtout, c'est une notion en même temps qui me paraissait intéressante et pertinente d'utiliser parce que il y a quand même un rapport. La nature, ça existe. Voilà, moi j'aime bien la rando. Bon, c'est un exemple un peu perso, mais tout le monde a un peu des rapports comme ça. Voilà, et se trouver au milieu de la montagne avec son sac à dos sur le dos, avec sa tente, loin, 20 km de n'importe quelle habitation, on sent bien que la nature, c'est pas quelque chose qu'on est capable de définir précisément, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui se vit et qu'il y a quelque chose qui existe, à mon avis. Et c'est ça qui est important. C'est la nature, c'est pas juste un concept. C'est pour moi un rapport sensible, un rapport charnel. Hein, c'est la pluie qui coule sur la joue, c'est la main qui plonge dans la terre, c'est voilà une odeur dans la forêt, etc. Voilà, surtout quand il pleut, comme aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ça. Alors j'ai pris pas mal de temps pour présenter. Je vais essayer de faire beaucoup plus bref. Juste très rapidement dans le contenu du bouquin, ça commence forcément par Bakounine, qui est un des grands théoriciens de l'anarchisme très connu, etc. Ce qu'on sait moins, c'est que Bakounine, il fonde son anarchisme sur une philosophie de la nature. Voilà. Et pour lui, il y a une continuité entre le monde végétal, le monde animal, puis le monde humain. Sauf qu'il y a une spécificité du monde humain qui est parlée, qui est pensée, et qui est surtout se révolter. Évidemment, cette philosophie de la nature chez Bakounine, elle serait problématique parce qu'on ne serait jamais libre si on était que pris par les forces naturelles. Mais en même temps, il dit bien qu'il n'y a pas de révolte possible contre la nature. On ne s'émancipe pas de la loi de la gravité, par exemple. Mais par contre, il y a bien une spécificité humaine qui est la liberté. Et ça, pour lui, ça vient avec le sentiment de révolte. Hein, avec cette capacité de se révolter. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un rapport aussi particulier à la nature dès le début chez Bakounine, avec un certain naturalisme qui est peut-être problématique, en tout cas qui peut poser des questions, mais voilà, qui est quand même assez particulier. Et c'est surtout qui donne l'idée que c'est pas une liberté de la toute-puissance que définit Bakounine. C'est plutôt une position d'humilité qui caractérise cette pensée-là. Hein, et finalement, même si l'être humain reste libre de mener sa vie tout en étant pris par des forces naturelles qu'il dépasse, voilà, il y a une position d'humilité qui caractérise la pensée de Bakounine. C'est pas une liberté de la toute-puissance, c'est plutôt une liberté attentive à ce qui nous entoure, au milieu naturel, et aussi aux autres, avec cette idée, hein, de cette définition que beaucoup connaissent de Bakounine, hein, que la liberté d'autrui confirme la mienne et l'étend à l'infini. Bon, d'autres anarchistes vont être beaucoup plus ambigus sur le rapport à la nature et sur les questions industrielles. Hein, donc j'ai cité Kropotkine tout à l'heure, hein, qui va par exemple considérer que les machines peuvent libérer l'humanité en apportant l'abondance. Et en même temps, ce mythe de l'abondance, il faut le replacer à l'époque où il est, au XIXe siècle, où tout un tas de gens sont dans la misère, privés de quoi vivre. Et en face d'eux, ils voient tout un tas de capitalistes, de bourgeois qui s'empiffrent, qui ont profusion, etc. Donc, il y a une abondance existante qu'ils voient et à laquelle à laquelle ils ne peuvent pas profiter. Du coup, il y a un peu cette idée, derrière le mythe de l'abondance, il y a un peu cette idée de « on veut profiter du banquet de la vie ». Bon. Reste qu'il y a, bien une valorisation de la machine, un certain progressisme chez pas mal d'auteurs. Chez d'autres auteurs, un peu moins. Élisée Reclus, j'en parle aussi, évidemment. On connaît un peu sa sensibilité, à la fois géographe physique et à la fois géographe social, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la fois aux cailloux et aux gens. Mais de manière générale, il y a une ambivalence dans le rapport à la nature au sein du mouvement anarchiste. Et juste, je m'arrête très rapidement sur les gens qui sont un peu moins connus, qui était très minoritaire, mais qui avait quand même une certaine influence dans les débats de l'époque, début XXe siècle, c'est les anarchistes naturiens. Donc tout ce courant-là qui va aller beaucoup plus loin sur la question de la nature. Alors, ils posent par ailleurs plusieurs difficultés, hein. Ils rompent en partie avec la perspective révolutionnaire. Ils passent parfois leur temps à se transformer en petit tribunal des comportements. Faut pas fumer, il faut pas manger de viande, etc., etc. Mais en même temps, ils mènent une critique très actuelle du progrès, de la science, de l'industrie, c'est-à-dire de ce qui ravage dans le même temps à la fois la vie humaine et le vivant dans son ensemble. Je vous lis juste un extrait du numéro 3 de la revue qui s'appelle « L'état naturel », qui est sorti en 1897 par ce petit groupe d'anarchistes parisiens, où, qui est intéressant parce qu'on voit se mélanger critique sociale et naturalisme. Donc je cite « Nous affirmons que la misère n'est pas d'ordre fatal, que seule la production naturelle du sol établit l'abondance, que la santé est la condition assurée de la vie, que les maux physiques, épidémies, infirmités et difformités sont l'œuvre de la civilisation, que les fléaux dits naturels, avalanches, éboulements, inondations, sécheresses, sont la conséquence des atteintes portées par l'homme à la nature, qu'il n'y a pas d'intempéries, mais des mouvements atmosphériques tous favorables, que la science n'est que présomption, que la création de l'artificiel a déterminé le sentiment de propriété, que le commerce ou la spéculation sur l'artificiel a engendré l'intérêt, dépravé l'individu et ouvert la lutte, que le progrès matériel est le fruit de l'esclavage, que les institutions et conditions sociales sont en antagonisme avec les lois de la physiologie humaine, que la prostitution n'existe pas dans l'état naturel, qu'il n'y a ni bon ni mauvais instinct chez l'homme, mais simplement satisfaction ou contrariété des instincts, que l'humanité recherche le bonheur, c'est-à-dire l'harmonie, et que l'harmonie pour l'humanité réside dans la nature. Donc voilà, il y a des choses très, très actuelles, hein, sur les maux physiques, sur l'idée que les fléaux dits naturels sont la conséquence des atteintes portées par l'homme à la nature, etc. Donc voilà, il y a vraiment, ça résonne avec la situation que l'on connaît aujourd'hui, et on est tout début XXe siècle. Donc on voit que la question de la sensibilité à la nature a parcouru le mouvement anarchiste, de manière parfois ambiguë, et qui va de plus en plus prendre à bras-le-corps la critique du mode de production industriel, être dans les combats contre les ravages industriels, je pense notamment aux luttes contre le nucléaire, mais aussi aux luttes contre l'informatique. Hein. Il existe, dès les années 80 en Italie, une analyse assez lucide et des propositions d'attaque, hein, et de sabotage contre les infrastructures numériques, dès les années 80 en Italie. Voilà. Et à mon avis, une des perspectives actuelles, c'est de prolonger et de réactualiser ces idées-là en cherchant à se défaire des chaînes énergétiques et technologiques qui nous en servent aujourd'hui. Hein, donc on est largement capté par des infrastructures d'énergie, de communication, et l'État et le capitalisme aujourd'hui, hein, s'appuient largement sur ces infrastructures-là, ils ont muté. C'est les unités de production d'énergie, c'est les câbles de fibre optique, c'est les data centers, c'est les antennes relais, etc. Et derrière cette proposition de se défaire des chaînes énergétiques et technologiques, il y a un peu l'idée qu'il existe un fétichisme du même ordre que le fétichisme de la marchandise. Alors le fétichisme de la marchandise, hein, c'est celui de Marx, en gros, qui dit que quand on voit les marchandises derrière une belle vitrine, hein, on oublie tout le travail humain qu'il y a derrière. Et à mon avis, c'est la même chose avec l'énergie et la technologie. Tout ce qui fait fonctionner n'importe quelle machine après avoir appuyé un bouton ou de plus en plus après avoir utilisé une commande vocale, hein, tout ça, c'est un peu un rapport magique. Ça donne un immense pouvoir qui est de l'ordre du fétichisme, comme le fétichisme de la marchandise. Voilà, après avoir utilisé une commande vocale, tout l'immense quantité de travail, les énormes besoins en minerais, les énormes besoins en électricité, en transport pour acheminer depuis l'autre bout de la planète, etc. Tout ça est mis sous le tapis. Voilà. Donc il y a une sorte de rapport magique, parce que les individus font l'expérience quotidienne d'un pouvoir énorme qui a tous les traits de la magie, appuyer sur un bouton ou manipuler une manette suffit. Voilà. Et ce pouvoir quotidien est entièrement conditionné à une certaine servitude à l'égard d'une immense machinerie sociale, une dépendance énorme à des bureaucraties, des industries stratégiques, des entreprises, des infrastructures. Hein. Et s'attaquer à ça, à mon avis, c'est un pari, c'est que ça peut contribuer à enrayer cette machinerie sociale et à peut-être ouvrir des perspectives, ouvrir des brèches, c'est-à-dire enrayer la normalité pour ouvrir des brèches. Et peut-être derrière, il y a la perspective révolutionnaire qui est, à mon avis, la perspective la plus lucide aujourd'hui, où on est un peu dans une situation où c'est soit effondrement, soit révolution. Quoi. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps. Je vais m'arrêter là, peut-être. J'ai pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Désolé. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Moi, j'ai déjà parlé beaucoup. Il y a, je pense, plein de gens qui ont un tas de choses à dire.
Il y a un micro va circuler.
D'anarchistes parisiens fin 19e, début 20e dont tu parlais.
Alors c'est Nina Turien.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez reposer la question et puis reprendre la réponse?
D'accord, merci. Est-ce que tu veux bien redonner le nom du groupe d'anarchistes parisiens fin 19e, 20e que tu as évoqué?
Donc c'est les anarchistes naturiens. Eux, ils avaient fondé une petite revue qui s'appelle L'État naturel. Voilà. Et c'était un petit groupe à Montmartre, il me semble. La plupart étaient à Montmartre. Mais ils ont pas mal influencé. Enfin, voilà, il y a souvent une séparation, une relecture un peu historique de l'anarchisme avec des séparations très très cloisonnées entre, je sais pas moi, anarcho-syndicalistes, individualistes, etc. Alors qu'en réalité, quand on relit des revues de l'époque, notamment dans les lieux qui y passaient, etc. Enfin, c'était quand même beaucoup plus poreux, même s'il y avait des débats extrêmement houleux et extrêmement voilà, ça circulait, les gens circulaient, les idées circulaient, et du coup, eux participaient aux controverses et aux débats de l'époque. Et ils vont influencer, notamment en Espagne, quelques anars communalistes ruralistes qui vont être partie prenante de la guerre d'Espagne.
Moi, j'avais une question de compréhension un peu, c'est comment on est passé de l'écologie aux mathématiques. Je n'ai pas capté.
Ouais, c'est vrai que je suis allé un peu vite et je ne suis pas du tout un expert dans la question. C'est juste, en fait, tout début XXe siècle, la discipline écologique qui est toute récente, mais comme dans plein d'autres endroits. Elle va se faire coloniser vraiment par les mathématiciens. En fait, tout un tas de champs scientifiques, les mathématiciens vont se présenter comme les plus à même de trouver la vérité, parce que 2 plus 2, ça fait 4, et donc voilà, hein, c'est facile. Et ils vont coloniser comme ça plein de champs scientifiques, et particulièrement le champ écologique. Et du coup, c'est assez intriguant, parce que, alors, il y a aussi toute une partie de cette science écologique qui, début XXe siècle, notamment un russe dont j'ai oublié le nom, va pas tomber là-dedans. Mais tout le début du XXe siècle, c'est vraiment cette science écologique-là. Ça devient vraiment des équations, des probabilités. Et aujourd'hui, on est complètement là-dedans. La science écologique, c'est ça. C'est des calculs de probabilités, c'est des équations, c'est une mise en équation du monde. Mais enfin, déjà avec Galilée, il y a déjà un peu cette idée-là. Avec, j'oublie le nom de cet Anglais qui va chercher au milieu du XIXe siècle l'équation de Dieu pour expliquer le monde. Et en fait, c'est lui qui est un des fondateurs du numérique. Hein, c'est sur ses travaux mathématiques qu'on va s'appuyer pour développer le numérique. Voilà, donc il y a quand même un rapport au monde et une conception qui se met en place là, mais qui n'est pas uniquement dans le champ de l'écologie, qui est plus large.
Merci. Christian, groupe Gaston Couté de la Fédération anarchiste. Je suis un peu réservé sur cette idée d'opposer la nature et les mathématiques, parce que ce qui me paraît essentiel, c'est que je suis d'accord avec toi, je ne sais pas trop bien ce que c'est que la nature, même si je suis ornithologue. La connaissance est quand même, à mon avis, déterminante. Si moi aussi, je suis comme toi, quand je me promène et que je compte mes oiseaux, j'ai beaucoup, d'abord et avant tout beaucoup de plaisir, évidemment. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'état des choses et le bilan qui nous est fait passe par une investigation scientifique, c'est-à-dire des statistiques. Voilà, on perd 17% d'oiseaux en France, c'est une statistique, en 10 ans. Hein. Mais bon, comment faire pour se passer de ces évaluations scientifiques pour accéder à une forme de connaissance de la chose, quoi qu'il en soit? Alors maintenant, sur un autre terrain, c'est vrai que aujourd'hui je suis effrayé, je vous raconte une anecdote. J'étais en stage il n'y a pas longtemps dans une réserve et le type qui nous accueille, très compétent, hein, sur sa veste c'est marqué en gros police. Donc aujourd'hui, je sens dans les milieux écolos, appelons ça comme ça, je ne sais pas trop bien parce qu'aujourd'hui tout part un peu dans tous les sens, je sens qu'en effet l'urgence c'est d'abord et avant tout le coup de matraque. Alors je rêve d'un monde où il y a des oiseaux, c'est clair. Mais je rêve pas d'un monde où on me dit tous les 10 mètres, t'as pas le droit d'aller là, voilà, etc. C'est vraiment, je sens très profondément dans les mouvements écolos aujourd'hui cette tendance à aller vers vraiment l'autoritarisme. Évidemment, en tant qu'anarchiste, c'est clair que je rêve pas d'un monde naturel, ça veut rien dire. Comme tu disais, il n'y a plus de nature en France. Moi, je suis allé en Tasmanie pour voir des forêts primaires en milieu tempéré, il n'y a plus que là-bas. C'est intéressant d'ailleurs aller voir, hein, c'est rigolo, mais en tout cas ici, il y a longtemps qu'il n'y a plus de nature. Et donc, bon, voilà, enfin voilà. Bon, j'en ai déjà trop dit de toute façon.
Oui, non mais juste oui, c'est vrai qu'il y a effectivement la science, c'est aussi un outil de connaissance. Hein, ça, je suis bien d'accord. Et en même temps, la science, elle est aussi devenue plus quelque chose de transformer le monde. Et elle n'est pas isolée des enjeux économiques, industriels, surtout aujourd'hui. Voilà. Mais effectivement, hein, je suis d'accord avec toi qu'il faut remettre un peu de nuances.
Serge, de Radio Libertaire. Moi, j'avais une question qui est liée. J'étais assez fasciné par l'histoire aux États-Unis, de comment s'est développé un certain mouvement, je ne sais pas si ça s'appelait écologiste, mais par rapport aux parcs naturels. Alors, je ne vais pas parler pendant des heures là-dessus, mais l'idée, c'était que, effectivement, la nature, dans le parc, c'était vraiment la nature extraordinaire. Bon, les animaux, tout ça, vivent comme ils veulent, bon, on va visiter un peu, bref. Et à côté de ça, tout le reste du territoire américain, voire au-delà, puisque cette vision des parcs naturels s'est répandue, y compris en Europe. J'ai rien contre les parcs naturels en tant que tel. Hein, bon. Mais en dehors des parcs naturels, le capitalisme peut se développer avec tout ce que ça implique. Et c'est les mêmes individus qui défendaient ces deux aspects. Voilà. Donc, bon, ça m'a assez fasciné. J'ai pas mal étudié, y compris les interventions là-dessus. Bon, je pense que, sans faire le parallèle, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour beaucoup, en tout cas d'occidentaux, la nature est quelque chose, c'est peut-être des parcs naturels, mais c'est quelque chose de paradis qui existe peut-être, paradis perdu, regagné, et en même temps, on est très éloigné de plus en plus par la vie urbaine, des animaux, enfin de la nature, avec la nature pas au sens seul, la nature avec les individus au milieu. Et je pense qu'on a quelque chose à regagner là-dessus. Alors ça peut être à la fois individuel et collectif, dans la mesure où il faut recréer des rapports à la nature, là où on vit, autour de soi, etc. Alors effectivement, quand on est dans une ville, bon, on peut toujours parler, faire des jardins, etc. Mais je pense qu'il y a nécessité de retrouver ce que la civilisation paysanne avait. C'est-à-dire que la nature, pour quelqu'un qui vivait, je ne sais pas, dans un certain nombre de dizaines d'années, il y a peut-être encore quelques-uns en France, il y en a un certain nombre dans le monde, c'est ce qui nous entoure, c'est les animaux, c'est quelque chose qu'on connaît, il y a un échange, ce n'est pas la nature d'un côté, l'homme de l'autre. Je pense que... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu veux. J'ai l'impression que maintenant, la nature, c'est vraiment, à part pour un certain nombre d'individus, quelque chose un peu lointain, perdu, qu'on va visiter dans un parc. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Je parle des pays occidentaux, hein. Je ne généralise pas.
C'est Bertrand. J'ai tiqué aussi... quand tu as parlé des naturiens qui disaient que la science était une présomption, ça m'a un peu fait tiquer aussi, mais je vais pas revenir. Et juste pour dire, l'anglais, c'est pas Alan Turing auquel tu pensais ? Alan Turing, le précurseur de l'informatique, tu as dit tout à l'heure un anglais, tu ne savais plus son nom.
Oui, bonjour. Moi, je me pose un peu... Enfin, je trouve que c'est très bien les trucs sur les parcs, et ça va un peu dans le sens que ce que je voulais dire sur l'antispécisme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même une remise en question de l'idée de nature, comment elle a été perçue à travers... assez longtemps, et où on essaye de déconstruire un peu cette idée. Et aussi, bon, là, il y avait eu des exemples tout à l'heure sur l'être humain serait le seul à pouvoir être libre. Bon, maintenant, je pense qu'avec tous les travaux en éthologie, on sait bien que, en fait, c'est pas si vrai que ça, qu'il y a plein d'espèces animales qui ont un rapport au sensible, et que c'est pas juste des machines, comme je pense que c'est ce que tu disais un peu sans le dire. Et bon, voilà, c'est des choses qui remettent en cause, aussi il y a un rapport à la pensée anarchique, je pense, dans l'antispécisme qui est un peu à la base. Et je me demande aussi jusqu'où ça remonte, ça, qu'est-ce qui a été précurseur dans ce qui est advenu aujourd'hui, et voilà.
Peut-être juste, je voulais rajouter quelque chose sur les parcs. Aux États-Unis, il y a ce mouvement, cette prise de conscience de protéger la nature, née sur la côte Est, dans un milieu qui est très protestant et puritain. Et donc la nature est bonne à protéger parce qu'elle est d'essence divine, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc la prise de conscience s'accompagne de ça. Donc ça a un effet positif parce qu'on crée des zones à protéger. En revanche, on s'est quand même permis aussi d'en virer les gens, donc les Amérindiens qui y vivaient paisiblement sans doute depuis assez longtemps. Et pour revenir sur les mathématiques et la statistique... Effectivement, la statistique est utilisée presque systématiquement pour évaluer les phénomènes environnementaux, les variations. Donc effectivement, on peut évaluer l'évolution de populations d'oiseaux ou autres. Et c'est des outils intéressants. En revanche, ce qu'on sait bien aussi, c'est qu'il y a une notion de milieu qui est très intéressante, c'est-à-dire que ce qu'on va observer globalement sur un territoire vaste n'a peut-être pas de sens sur un territoire beaucoup plus restreint. Et c'est là où les histoires d'échelle sont importantes, parce que la statistique souvent va ouvrir sur des conclusions sur un grand territoire, et sur des plus petits territoires, ça n'aura peut-être pas d'objet.
Et moi, je voulais revenir sur le rapport à la science. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant de critiquer la science, ou en tout cas de la remettre en question, parce qu'en fait, elle permet d'apporter de la connaissance sur le milieu naturel, mais en fait, elle permet à des penseurs de penser, de fabriquer de la théorie autour de la nature. Mais en fait, les paysans et les personnes qui habitent les territoires, ils ont cette connaissance. C'est juste qu'eux, ils n'écrivent pas des pamphlets, ils n'ont pas la reconnaissance qu'a le milieu de la science, mais ça n'empêche que la connaissance, elle existait déjà. Et ça permet de... Je ne sais pas comment expliquer ça clairement, mais puisque c'est des scientifiques qui observent, qui étudient, qui écrivent des textes, ça leur donne un pouvoir sur comment les personnes des territoires utilisent et travaillent avec la nature. Et ça leur donne après des... J'ai l'impression, en tout cas, j'ai travaillé dans un conservatoire botanique, et ça leur donne un peu une parole qui a plus de valeur et des impacts qui sont plus importants. Dans ce conservatoire botanique, il y avait une condescendance envers le monde paysan et sur les pratiques qu'ils avaient, que je trouve qui n'étaient pas du tout constructives et qui n'étaient pas justes, en fait, parce que c'est pas parce qu'on a étudié et on a fait de la théorie qu'on a globalisé des pensées que ça donne plus de valeur à des personnes qui pratiquent des choses sur des territoires en...
Encore à moi. J'ai le loin, mais je savais pas que c'était à moi. Plusieurs choses. Tu parlais aussi des machines. Je me souviens, quand j'étais petit, j'habitais en Brie, et il y avait une ferme à côté de chez moi, et les paysans qui travaillaient dans cette ferme, c'était un métier particulièrement dur. Ils étaient bien contents d'avoir des moissonneuses et des batteuses. Alors, il faut préciser ce qu'on entend par le terme machine. Évidemment, les moissonneuses et les batteuses qu'ils utilisaient étaient tirées par des chevaux, je me souviens. D'ailleurs, le travail d'entretien de ces animaux était particulièrement difficile. Donc, je ne suis pas a priori contre les machines. Je suis contre certains types de machines. Et ça ne me gêne pas, au sein du groupe Gaston Couté, nous avons des paysans, hein, et ça ne me gêne pas quand ces amis paysans nous disent d'abord que c'est un métier qui est pénible, mais nous disent aussi que les outils, c'est pas mal, ça peut simplifier le boulot. Y compris, on a une camarade de notre groupe qui est paysanne et qui utilise des chevaux pour travailler la terre, hein, c'est un gros, gros travail. Bref, je suis réservé sur le fait qu'il faille exclure la machine. D'autant que dans notre histoire, nous les Homo sapiens, il y a quand même beaucoup de... L'essentiel, hein, c'est les chasseurs-cueilleurs. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas. Hein. Et donc, on n'a pas d'autre choix que l'agriculture. Et l'agriculture, ça se fait avec de l'huile de coude et des machines, hein, même si ce sont des machines élémentaires. C'est sûr qu'une moissonneuse et une batteuse, ce n'était pas la même chose, tirée par des chevaux. C'est moins peut-être embêtant pour le sous-sol en Mongolie qu'une machine à couper le blé couplée avec un GPS. Enfin, à discuter. Mais bon, je suis... Encore une fois... Quand on parle de tout ça, je crois qu'on est dans une période particulièrement de simplification qui est vraiment extrêmement gênante et justement qui fait la porte ouverte à ceux qui, au fond, avancent masqués et qui rêvent surtout d'une société totalitaire, sous prétexte de nature. Pour revenir aussi à ce que disait notre ami sur les paysans, mon expérience, c'est plutôt que les paysans nous prennent vraiment pour des cons.
plutôt que l'inverse. Et un paysan, je raconte une anecdote, j'étais un jour en forêt amazonienne, et il y avait un Indien qui nous guidait, de toute façon, sans lui, je n'aurais pas pu. Hein. Mais à un moment, je lui dis, je voudrais voir des rapaces. Et lui, il dit, de toute façon, c'est des aigles, tout ça. C'est-à-dire que, concrètement, le mythe de celui qui est en nature, qui connaît mieux la nature, ce n'est qu'un mythe. Il a simplement son point de vue, c'est tout. Et sa connaissance, qui peut être profonde, mais qui est liée uniquement à ce qui lui importe, au fond. Le type n'avait strictement rien à foutre que j'ai envie de voir des rapaces. Hein. Ça l'interpellait même, vraiment. Alors, le mythe de l'Indien qui sait toute la nature, c'est rigolo. Alors, les paysans autour de moi, je suis du Loiret, hein, le groupe Gaston Côté, on a des paysans. C'est sûr que la plupart du temps, ils nous disent « Fermez vos gueules, vous n'y connaissez rien ». Sauf que quand je leur parle de Puyo Vélos, le type, il ne sait même pas de quoi je parle. Hein, entre parenthèses. Et donc, il faut bien aussi séparer les choses. Il y a les intérêts des uns et des autres. Moi, je suis pour qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute tous, les paysans, les chasseurs, et puis, etc. Hein, c'est la seule solution, à mon avis. Mais il faut se garder de faire un peu la mythologie du paysan qui sait mieux la nature que les autres. Hein, parce que la plupart du temps, ce n'est pas vrai, tout simplement.
Oui, sur le problème de la science et de la connaissance, c'est un problème très actuel en fait, puisque par rapport à ce que certains ont fait de la science et de la technologie, effectivement, il y a une contestation tout à fait justifiée qui se développe. Mais je pense qu'il faut séparer ce que dans la science, enfin, il y a science et connaissance, quoi, ou connaissance, je ne sais pas si on doit dire ça. L'humain sera toujours curieux de ce qui l'entoure. Alors effectivement, que les sociétés actuelles utilisent ça par le fait que tous les problèmes techniques que pose la technique ou la science aujourd'hui, c'est la science et la technique qui va les régler. Ça, tout le monde connaît ça. C'est absolument condamné. Mais je pense que ce contre quoi on doit se battre, c'est peut-être pas la science en tant que telle, c'est le scientisme. Moi, j'ai participé à un mouvement qui s'appelait Survivre et Vivre avec Alexandre Grothendieck, peut-être certains d'entre vous connaissent, dans les années 70, qui était un scientifique de très haut niveau en mathématiques, et qui critiquait énormément le scientisme. Déjà à l'époque, et c'était très important, on le prétend un petit peu comme le lancement un peu de l'écologie en France à l'époque. C'était un peu au-delà de ça à un moment. Il y a beaucoup d'engagement anti-nucléaire, enfin tout ça. Mais c'est on ne peut pas rejeter, je pense, complètement la science. Je dis ça par rapport à certains mouvements que je respecte entièrement, qui en font un peu un cheval de bataille. Ou alors il faut vraiment nuancer. Je terminerai par un seul exemple. Dans l'agroécologie, par exemple, qui est agroécologie paysanne, il faut rajouter, hein, parce que même le gouvernement reprend le mot, il y a des mots à la mode. Dans l'agroécologie, on part effectivement de savoir paysan, mais ce savoir paysan peut être enrichi par des gens qui ont des connaissances particulières dans tel ou tel domaine et qui travaillent avec eux. Donc, quand ça a démarré en Amérique latine, ça a été fait sur ces bases-là. Et il n'y avait pas forcément une contradiction, c'est-à-dire que les gens qui avaient des connaissances particulières pouvaient amener à un collectif de paysans un certain nombre de choses, mais ce n'est pas eux qui dirigeaient, c'était un apport tout à fait horizontal. C'est un exemple particulier qu'on peut retrouver pas uniquement en Amérique latine, hein, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se revendiquent de l'agroécologie, mais surtout mettaient paysanne derrière, parce que même le ministère de l'Agriculture utilise le mot.
Voilà. Reprendre une intervention, puis peut-être après on laissera notre ami répondre un peu, parce qu'il commence à avoir un gros dossier.
Oui, on va répondre à tout.
C'était pour revenir un peu sur les machines. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un rapport utilitaire intéressant, mais bon, faut quand même se rappeler d'où elles viennent parfois les machines et comment elles ont été conçues. C'est parfois problématique. Et en fait, la traction animale, c'est bien, mais bon, si on est libertaire, en fait, à quel moment on a servi d'autres animaux pour nous, notre confort? Et d'ailleurs, c'est aussi le rapport au territoire. C'est qu'aujourd'hui, même On a colonisé toute la terre et quelle terre il reste en fait pour les autres animaux, le reste du vivant, qu'est-ce qu'on lui laisse en fait? Il y a Francis Allais qui essaie de faire des trucs sur recréer par exemple une forêt primaire en Europe. Il y a des choses qui me semblent intéressantes. Il y a tout le phénomène de réensauvagement aussi qui me semble une question intéressante. Et ben, en fait, aujourd'hui, là, moi je fais partie de gens qui s'intéressent au sans fumier, au sans intrants d'élevage animaux, essayer de récupérer par exemple le fumier humain. Voilà. Et parce que par exemple, le rapport un maraîcher qui va exploiter, je sais pas, un hectare, et ben en fait, s'il fait de l'amendement animal, il va dépendre d'une plus grande quantité de terre à l'extérieur de son exploitation. Et ben ça, à quel moment c'est pertinent? Parce qu'en fait, la terre, et ben comme elle est limitée, on peut pas avoir quelque chose de soutenable avec ce modèle-là. Et donc voilà. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est une réflexion sur nous-mêmes décoloniser la terre qu'on prend au reste du vivant aussi.
Alors je vais pas du tout répondre à tout. De toute façon, il y a des choses qui étaient plus de l'ordre de remarques et tout ça, ou de contradictions et tout. Quelques points rapidement. Il y a une critique, non pas de la science, mais du gouvernement des savants chez Bakounine, qui me semble hyper intéressante et que j'ai relue en pleine période de crise sanitaire, et j'ai trouvé assez savoureux à ce moment-là de le lire, parce qu'il y avait quelque chose qui ressortait de cette période-là où on était un peu plongé là-dedans, qui est quelque chose de très, très actuel et du coup qui est assez nuancé aussi et qui me semble à relire aujourd'hui. Quant au débat sur les machines, qu'est-ce qui est outil, qu'est-ce qui est machine, qu'est-ce qui est de la technologie, qu'est-ce qui est de la technique, etc. C'est peut-être avec ces catégories-là qu'il faut peut-être un peu penser. Moi, ma proximité, elle irait plutôt chez la manière dont définissait les techniques ou les machines contre lesquelles qu'ils allaient saboter, c'était chez les ludites, quoi. Ils disaient, toutes les machines qui sont préjudiciables à la communauté, on les fout en l'air. Ce qui me paraît être un critère assez constructif. Voilà. Il y a quelques notes que j'ai prises comme ça. Il y a une question sur l'antispécisme. Alors, je suis un peu embêté parce que moi, je me définirais pas comme antispéciste. Je pense qu'il y a des spécificités humaines. Et en même temps, je serais assez proche de la position de Bakounine là-dessus, quoi, qui dit qu'il n'y a pas de... En gros, il n'y a pas de rupture, mais il y a des spécificités. Voilà, des spécificités au monde végétal, des spécificités au monde animal, des spécificités au monde humain, etc. Mais qu'il y a pas, voilà, que c'est quelque chose qui est en continuité. Voilà. Bon, c'était peut-être une réponse de Normand, hein, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais bon, voilà. Il se trouve que je suis Normand. Voilà. Et sinon, sur... oui, il y avait une question aussi sur le rapport à la nature, du coup peut-être retourner un peu à la terre. Et moi, je pense qu'il y a, et c'est déjà quelque chose qui se passe, hein, un peu un mouvement de retour vers les campagnes, etc. Je pense que c'est plutôt réjouissant. Et moi-même, je m'y retrouve un peu, je me retrouve complètement là-dedans, parce que moi-même, je suis en train de partir avec des potes. On est 5 à avoir repris un terrain à la campagne, etc. Et en même temps, je me méfie de ça. Parce que j'ai l'impression que ça entraîne aussi un mythe qui serait qu'il y aurait une espèce d'extérieur possible à la société industrielle, à la société capitaliste. Et je le vois chez plein de copains et copines qui s'imaginent qu'ils vont faire de l'alternative dans le système. Et je pense que c'est complètement illusoire. Et en même temps, il va bien falloir trouver, expérimenter d'autres rapports sociaux et tout ça. Et moi, à mon avis, le curseur, c'est que, avec ça, il faut penser la lutte, la conflictualité, et du coup, il faut marcher sur ses deux pieds, quoi. Et que, du coup, ça ne peut pas être juste un sympathique moment de retour à la Terre, mais que ça peut y contribuer. Voilà.
Euh, Moi, je voulais juste te demander par rapport aux naturiens, c'était quoi le rapport, on va dire, à Dieu ou du moins à Gaïa comme un espèce de truc surpuissant, comme on peut voir. Enfin, là, aujourd'hui en France, ça y est, des publications qui sont anarchistes, mais en même temps hyper à la limite sur ces questions-là, ou encore plus dans les mouvements écologistes internationaux, où on peut voir des trucs qui sont plutôt de l'ésotérisme qu'autre chose. Et je me demandais si eux, dans leur trajectoire, ils ont rencontré la religion à un moment.
Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de tous ces gens-là, mais surtout qu'il n'y a pas énormément d'archives en fait sur eux, mais il y en a quelques-unes. Mais alors il y en a quelques-uns forcément qui ont été vers l'anarchisme chrétien avec Tolstoï et tout ça, enfin qu'on lu Tolstoï, qui ont été séduits par Tolstoï et qui sont allés vers ça. Mais la plupart, ils n'ont pas du tout été, ils sont pas du tout tombés dans les trucs religieux. Et en même temps, il y a un fond spirituel, parce qu'il y a bien une sorte d'idéalisation de la nature, enfin, ne serait-ce que le titre de la revue, hein, de l'état naturel. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu déjà chez Bakounine, où il y a cette espèce d'idée que le vivant, la nature, enfin, l'anarchie finalement, c'est quelque chose qui se fonde sur la nature, c'est l'état naturel, justement, des choses. Il y a quand même une forme un peu, qui est au moins interrogée, hein, de cette position naturaliste, elle est au moins interrogée. Et effectivement, chez les naturiens, il y a quand même une dimension parfois un peu spirituelle et espèce d'idée d'harmonie, comme si la nature c'était, enfin la nature c'est aussi la mort, quoi. Je veux dire, il y a rien de plus naturel que la mort, et c'est pas forcément un truc hyper joyeux, quoi. Enfin, c'est pas un truc super sympa, c'est la maladie, c'est tout ça. Voilà. Donc c'est aussi tout ça, c'est aussi tout ça la nature. Et donc il y a une espèce d'idéalisation quand même chez eux qui est du coup à interroger. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'anarchistes naturiens qui, au bout de 10-15 ans, vont dire « Bon, faut peut-être un peu refaire un peu du tri dans ce mouvement-là, parce que c'est sympathique, mais ça part des fois un peu tout et n'importe quoi. » Et donc, on va revenir un peu à des fondamentaux qui sont, bon, aussi, qu'est-ce qu'on pense ? Enfin, c'est quelques anards individualistes aussi qui étaient peut-être un peu moins individualistes que les autres, qui disaient « Bon, ben, en même temps, il y a des combats à mener contre l'Église, contre l'État, contre le capitalisme, etc. Faut peut-être aussi, par rapport aux femmes, etc. » Donc, faut peut-être qu'on revienne aussi à ces fondamentaux-là, et plutôt que de parler pendant des heures de l'état naturel superbe dans lequel on sera en symbiose, qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, quoi. Voilà. Donc il y a eu aussi des contradictions au sein même d'eux, qui étaient déjà une minorité en contradiction avec les autres. Mais,
Encore moi donc, Christian Groupe, Gaston Côté, Fédération Anarchiste. Justement, je voulais parler un peu d'anarchisme. Depuis Platon, on sait que de toute façon, le gouvernement des savants, ça s'appelle une dictature, hein, c'est pas d'hier. Et donc, anarchie, ça veut pas dire non plus qu'on va se priver des compétences. Il y a juste une répartition claire dans l'organisation sociale. Je pense que dans le monde de mes rêves, il y a des comptables, et très compétents même, peut-être même des économistes, j'ai dit un gros mot, hein, très compétents, mais il va sans dire que c'est pas eux qui prennent la décision. Hein. La décision, on prend en compte de ce qu'ils nous racontent, mais la décision, on la prend ensemble. Ça me permet de dire que l'anarchisme, c'est aussi la volonté de faire société pour moi. Et ça rejoint d'ailleurs les paroles de Bakounine. S'imaginer anarchiste en se disant « j'ai pas besoin des autres et j'ai pas besoin de la liberté des autres pour être libre », précisément, c'est prendre l'inverse de ce que dit Bakounine. Pour moi, mon anarchisme à moi, si je peux me permettre, eh bien, c'est évidemment la volonté avant tout de faire société et pas de m'absenter du monde. Alors le monde, il n'est pas drôle, hein, mais n'empêche que... et puis aussi... j'arrête là parce que j'en ai déjà beaucoup dit, j'en dirai après.
Oui, juste une interrogation, parce que il y a quand même un... tout un mouvement en ce moment qui est bon, on sent bien qu'il y a plein de choses qui nous échappent dans la nature et tout ça, enfin qui est complètement décimé de plus en plus. Voilà, bon, enfin, je ne détaille pas là-dessus, je pense que tous ceux qui sont dans la salle le savent très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut contre ça? Voilà. Bon, alors je ne parle pas des luttes locales, bon, contre tel ou tel projet inutile, etc. etc. Au-delà de ça, je pense que là, effectivement, là, les propositions anarchistes sont bien adaptées à ça, dans la mesure où, par rapport à ça, il y a un peu d'opposition. Deux positions, je schématise un peu. Hein. On va convaincre les autorités, les États, les grands de l'ONU, etc. On va les convaincre qu'ils sont sur une mauvaise voie, que l'humanité est en danger. On va les convaincre. Bon, tout le monde a des noms de gens, y compris dans le mouvement écologiste, qui ont cette étude-là. Personnellement, j'y crois absolument pas. Les États, on connaît leur histoire, les politiciens qui arrivent à divers niveaux, les experts à leur botte, on connaît tout à fait tout ça. Et je pense que la proposition anarchiste, alors que bon, qui n'est pas peut-être suffisamment connue, c'est le fédéralisme en fait. C'est-à-dire qu'on agit. Restons dans le domaine de la nature, localement, sur un territoire, on redécouvre la notion de territoire, des gens avec qui on peut faire des choses ensemble, des paysans, enfin des gens qui vivent sur le territoire, et ces différents territoires se fédèrent, ont des échanges, etc. Alors je sais bien que ça peut paraître un peu difficile à mettre en route aujourd'hui, mais pour moi c'est la seule solution pour sauver ce qu'on peut de la nature, des animaux, des humains qui vivent ensemble. On ne peut pas imaginer ça, décider à l'ONU, décider... bon, ils peuvent toujours d'ailleurs décider tout ce qu'ils veulent, c'est jamais appliqué. Et le capitalisme, pendant ce temps, il roule avec son bulldozer et il écrase tout. Donc, moi, je ne soutiens pas ceux qui, dans le mouvement, qui sont en désaccord par rapport au climat qui est en train de se dégrader, par rapport à tout ça, et qui s'adressent aux grands de ce monde. Alors, soit ils sont naïfs, soit ils se foutent de notre gueule. Voilà.
D'autres interventions ou Julien, si tu veux.
Encore moi, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je me souviens d'avoir assisté à une conférence par, comment elle s'appelle, Madame Delmotte, une femme extrêmement brillante, hein, magnifique, du GIEC. Hein, pendant deux heures, elle a accumulé les preuves. Et à la fin de la discussion, j'ai pris conscience du fait que cette dame, fort respectable, passait son temps à accumuler les preuves. Et que si je revenais la semaine d'après, y aurait ça de preuves en plus. Puis la semaine d'après, ça de preuves en plus. Et c'est ce que dit Serge. En fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les instances qui nous emmerdent, elles n'ont que faire de ces preuves. Et que notre problème, ce n'est pas d'accumuler les preuves, on les a. C'était extraordinairement convaincant ce qu'a raconté cette dame. Vraiment. Sauf que j'étais. Je vais être un peu dur. J'avais un peu de pitié pour elle. Je me disais, mais elle va passer sa vie à accumuler des preuves. Formidable. Magnifique travail. Et puis quoi? C'est sûr que nous, on serait un peu révolutionnaires sur les bords.
Non.
Et donc, on n'a pas perdu de vue. Au fond, ce qui nous amène à cette situation. Puis je voudrais dire juste un truc personnel, et ça va peut-être pas faire plaisir à mes camarades anarchistes, mais j'ai toujours beaucoup de mal dans le monde anarchiste à évoquer la faune sauvage, qui est toujours absente de nos discours. Toujours. Je m'interroge.
D'autres interventions?
Bon, moi, c'est juste pour... tu parlais de ton anarchisme, mais c'est vrai que dans ce débat nature et anarchie, il y a des groupes aujourd'hui, depuis longtemps, mais qui sont présents plus par exemple en Amérique du Sud, genre les anarchistes anticivilisationnels qui du coup pour le coup font complètement sécession de la société et qui sont pas là pour faire société justement mais plus pour la détruire, et que c'est des mouvements qui existent en voilà, qui existe, comme dit, y a, même en France maintenant, il y a des publications sur ces mouvements-là. Ouais, c'est juste pour savoir que ouais, y a vraiment différents anarchismes en effet, et que je pense qu'il y en a qui s'entendraient vraiment pas, quoi. Voilà.
Christian.
Je peux me permettre de te répondre directement. Je ne prétends pas être détenteur de la vérité, il ne manquerait plus que ça. Mais c'est vrai que je trouve aujourd'hui qu'on a un problème particulier chez les anarchistes de définition réellement de l'anarchisme. Et c'est vrai qu'il y a plein de milieux aujourd'hui qui vont se dire anarchistes, alors qu'en réalité, ils sont purement individualistes, voire libertariens. Et ça me pose un problème pour ma part. Ce n'est que moi qui dis ça. Mais c'est vrai que mon anarchisme à moi, c'est d'abord la volonté de faire société. Et alors, évidemment, il y a des tas de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que les anarchistes qui veulent faire société commencent à être un petit peu minoritaires par rapport aux anarchistes qui n'en ont rien à foutre des autres.
Oui, en effet, en parallèle, il y a l'histoire. Enfin, moi, je ne m'y connais pas du tout, mais c'est vrai que... l'anarchisme individualiste, il a une histoire presque parallèle par rapport à celle dont tu parles. Ouais. C'est clair. Et que là, oui, il est bien existant sous de nouvelles formes.
Oui, bah, je suis content d'entendre ça, parce que du coup, dans l'antispécisme, c'est aussi ça, c'est le rapport au sauvage. Mais il n'y a pas que l'antispécisme, il y a aussi dans les milieux permaculturels. Alors, il y a à boire et à manger, et c'est là où aussi, je pense qu'il y a quelque chose, c'est dans notre temps, c'est que ce soit les gilets jaunes, que ce soit plein de mouvements sociaux, l'anarchisme, c'est quelque chose de diffus qui est soit, en fait, on a oublié que ça pouvait venir de pratiques anarchistes. Il y a une amnésie où, on est discret, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on a... On est tellement mal vu parfois qu'on préfère pas forcément dire qu'on l'est, mais on pratique quand même. Et dans le milieu permaculturel, où il y a des formes d'ésotérisme, il y a des formes de petits bourgeois et tout, mais il y a aussi de la permaculture qui est purement et durement anarchiste et qui a envie de faire société en revoyant un peu tout le modèle global dans la ruralité, quoi, et qui, je pense, est très très intéressante. Il faut pas abandonner ce secteur là quand bien même il y a, on va dire, des farfelus, leur laisser le champ libre, quoi.
Serge, à nouveau.
Non, juste un mot, ce que je dis toujours sur l'anarchisme. Là, bon, on en parle par rapport à l'actualité, mais il n'y a pas de label AB, quoi, anarchiste brevet, quoi. Effectivement, c'est quelque chose qui peut s'adapter là où on vit, le type de société, etc. Il n'y a pas de vérité absolue, enfin, du moins, j'espère. Enfin, moi, j'en ai pas, en tout cas, je vous rassure, même avec un cerclé absolu. Effectivement, il y a eu diverses réponses, mais bon, peut-être selon les époques, selon les lieux, selon les individus, et ça fait partie de l'anarchisme. Moi, je pense qu'il ne faut pas le perdre. Il faut accepter qu'il y ait diverses propositions qui puissent être faites, et il faut accepter qu'elles sont relatives peut-être à l'époque à laquelle on vit, peut-être au lieu dans lequel on est, peut-être à son histoire personnelle. Et ça fait partie de l'anarchisme. C'est ni une église, ni un dogme, ni des gens parfaits. C'est des gens comme ceux qui sont dans la salle. Enfin, du moins, ben, je sais pas, je m'engage pas pour les autres. Non, mais je pense qu'il faut accepter ça. Et effectivement, il y a eu des attitudes avec lesquelles on n'est pas d'accord, qu'on peut contester, y compris encore aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est vraiment cette forme de fonctionnement qu'on peut retrouver dans les luttes, qu'on peut retrouver dans certains, je sais pas, un peu, enfin chez les apatistes, sans vouloir les revendiquer, mais dans les modes d'organisation, dans les modes de fonctionnement, on retrouve des choses qui sont vraiment importantes, qui font à la fois appel à ce qu'un individu a envie de vivre sur Terre, et puis ce que l'individu étant un être social, enfin l'humain étant un être social, qu'il essaie de vivre avec d'autres. Bon, alors. Après, il y aura toujours des solutions diverses. Moi, je les accepte. Je peux critiquer telle ou telle chose, mais je les accepte. Je ne veux pas qu'il y ait une réponse fonctionnement anarchiste écrite quelque part, un label, comme je l'ai dit, et qu'on doit appliquer partout. Ça, ce n'est pas de l'anarchisme.
S'il n'y a pas d'autres interventions, comme on arrive à la, au bout de, du temps qui nous était imparti, je propose... Julien, de peut-être conclure.
Ouais. Mais non, c'est pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas du tout de label sur l'anarchisme, mais qui règne quand même aujourd'hui une certaine confusion, mais qui est logique, parce que je veux dire, c'est pas seulement par rapport à l'anarchisme, c'est par rapport à plein de choses, surtout sur l'échiquier politique. Il y a une confusion ambiante qui est quand même... Qui est quand même présente. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai voulu faire ce bouquin, quoi. Un petit exemple en tête, moi j'ai exemple en manif de passer en ce moment un des groupes qui font des acerclés, qui taquent des acerclés, des fossiers et des marteaux tous les deux mètres, quoi. Et t'es là, tu fais bah, bon, peut-être un peu réarmer un peu, outiller idéologiquement les gens, quoi, parce que là, bon, c'est sûr que il y a des choses qui sont un peu confuses. Mais bon, voilà, c'est. Après, moi, pour conclure un peu, par rapport à la situation actuelle, moi, je rejoins l'idée d'anarchisme comme faire société. Mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est faire société, pas dans n'importe quelle condition. Et autant je peux être critique d'un certain anarchisme avec un rapport nihiliste, il faudrait tout détruire, etc. Autant je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à mettre l'accent sur, aussi sur cet aspect, il faut le dire, destructif, parce qu'il n'y a pas grand-chose à sauver du monde actuel, quoi. Alors, si, il reste des choses, comme des moments comme aujourd'hui, etc., mais qu'il faut quand même avoir en tête que qu'il va falloir aussi aller à la bataille, quoi, aller dans les luttes, et qu'il va falloir assumer un aspect destructif, forcément illégaliste, etc. Et parce que ouais, je pense qu'il faut faire de la place pour construire un nouveau monde, quoi. Il va falloir faire de la place, et on est un peu saturé aujourd'hui de beaucoup de choses. Sans tomber, et c'est ça le souci, sans tomber dans un truc, un rapport complètement nihiliste au monde, quoi. Voilà, je terminerai là-dessus.
Eh bien, merci beaucoup. Et puisqu'il a beaucoup été question d'anarchisme et de nature, voire d'animaux, nous allons nous quitter avec un animal emblématique, le chat. Donc je vous propose d'écouter Chat, Eric Frasiac. À tout à l'heure.
Chat fait rien, c'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas, n'en fait qu'à sa tête à chaque fois. Chat s'en fout du qu'en dira-t-on, rentre quand il veut à la maison. Chat fait du bien quand il ronronne, c'est trop chou quand chat s'abandonne. Chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat fait le gros dos quand il a peur du chien que chat porte pas dans son cœur. Les aboiements, chat n'aime pas trop. Les griffes, chat les sort quand il faut. Chat ramène toujours des trophées. Oiseaux, souris, chassés, chassés. quand ça va pas qu'il est fâché. Chat donne pas envie de s'effroter. Chat, oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat pose ses pattes sur mon clavier. Pour écrire chat, c'est pas gagné. Mais pour chaparder, s'échapper, c'est chat le plus fort du quartier. Chat d'or au chaud sur le capot. Mon chat ranou dans mon chapeau. Quand chat s'endort sur mes genoux, chat me fait comme du bonheur partout. Oh chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. J'adore chat, j'adore chat. Chat fait tout ce qu'il veut de son humain, car c'est moi qui lui appartiens. C'est chat qui choisit, c'est son choix. Ça va, il me laisse habiter là, dans ce monde où les souris dansent. Chat se fout bien de tout ce qu'on pense. Qu'est-ce qui nous attache, lui et moi? Je sais pas, mais je donne ma langue au chat. Oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh, même si parfois, non, d'un miaou, je vis chez mon chat. Chat, oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et vice versa. Pardon, versa. Versa.
Eh bien voilà, c'était Chat, Eric Frasiak. Et on va vous laisser avec un programme musical en attendant la reprise des directs pour la prochaine conférence qui aura lieu à 13h30. Donc on se retrouve en direct à 13h30 et d'ici là, de la musique.